Alors moi, je vais vous dire, ça m'étonne que les gens aient l'air surpris par les révélations de Sœur Emmanuelle concernant la masturbation. Ouais, c'est l'autre nom du plaisir solitaire. Bon, que les plus jeunes s'étonnent, je dis pas. Mais les autres, ils ont pas beaucoup de mémoire, hein. Il y en a peut-être pas beaucoup qui avaient lu ses mémoires à Sœur Emmanuelle. Mais l'adaptation cinématographique a eu un succès considérable. Preuve que ceux qui sont choqués aujourd'hui par ces révélations sont de sacrés hypocrites. C'était qui alors les spectateurs qui remplissaient les salles à l'époque? Mon préféré, ça reste le premier. Celui qui s'appelait Emmanuel et qui est devenu le 1 une fois qu'il y en a eu d'autres. C'est d'ailleurs dans ce film qu'apparaît une future merveilleuse actrice, Christine Boisson. Dans Emmanuel, elle est toute jeune. Et il y a justement une scène où elle est nue, à part un petit short en jean, qu'elle déboutonne pour se masturber tout en regardant une photo de Paul Newman sous les yeux magnifiques d'Emmanuel émerveillé. Tiens, mais j'y pense. C'est peut-être pour ça qu'elle est morte maintenant, sœur Emmanuel. Elle n'a pas supporté la mort de Paul Newman. Ou alors elle s'est dit, je vais enfin pouvoir faire l'amour avec lui, au paradis. Ah, moi je l'aimais beaucoup, sœur Emmanuel. Enfin, surtout les films. Mais je vais peut-être lire les livres, tiens, maintenant. Surtout le dernier. Confession d'une religieuse. C'est un super titre, ça, non? J'espère qu'on aura bientôt le film.
Oui, bonjour Daniel, bonjour l'équipe, c'est Françoise de Normandie. Oui, j'entends, après le reportage de France 2 sur les maisons de retraite, reportage volé, entre guillemets, j'entends beaucoup s'exprimer Madame Létard, qui est secrétaire d'État à la solidarité. D'ailleurs, je m'étonne qu'il y ait cette personne au gouvernement. Jusqu'à présent, je n'en ai pas encore entendu parler. Ou alors, les médias s'y intéressent pas. Ou alors, la solidarité, c'est pas un truc porteur. Mais enfin, en tout cas, bon, bref. Il y a cette dame-là qui voit le reportage et qui dit qu'elle va porter plainte contre l'établissement. Alors là, ça, excusez-moi l'expression, mais moi je reste sur le cul. Elle porte plainte contre l'établissement. Mais je pense que il faudrait porter plainte contre l'État, contre la DAF, contre les conseils généraux. Il faudrait porter plainte contre tout le monde, puisque de toute façon, ce problème de personnes âgées, ce n'est qu'une question d'argent. Et ce qu'on se souhaite, c'est évidemment, c'est pas aller là-dedans. Et on prend en compte toute la souffrance des patients, mais aussi vraiment les bras qui en tombent au personnel qui, évidemment, raque. J'entends parler d'une infirmière pour 170 patients. Que voulez-vous qu'elle fasse, hein? Que voulez-vous qu'elle fasse? Alors, moi, je me demande quand même s'il ne faudrait pas porter plainte contre Madame Létard, parce que moi, c'est contre son salaire, moi, que je porte plainte, parce qu'elle est payée à rien foutre, parce qu'elle ne s'est pas encore aperçue. Je suis vraiment en colère, Daniel. Allez, salut les AMG.
Oui, bonjour. Alors... Voilà, je me demande pourquoi Daniel Mermet prend des précautions pareilles en disant qu'il y a des milliers d'expulsions aux États-Unis, alors que les Échos eux-mêmes, il y a quelques mois déjà, hein, en septembre, disaient qu'on en était déjà à plus de 2 millions d'expulsions aux États-Unis. Je sais que c'est un chiffre qui est tellement énorme qu'on a du mal à le croire, mais bon, si c'est les Échos qui le disent, je pense qu'on peut on peut le croire, quoi, hein, voilà. Et d'ailleurs, les Échos analysaient pas ça de manière sociale. Ils déploraient pas le fait qu'il y ait 2 millions d'expulsions, ils déploraient le fait qu'il y avait tellement d'expulsions qu'on n'arrivait plus à revendre les logements et que les banques, ne pouvant pas les revendre, ne pouvaient pas faire rentrer de cash pour payer les créances des gens expulsés. Voilà, donc les expulsions massives participent à la chute de l'immobilier américain. C'est un gros problème pour les Échos, hein, qui sont pas un journal socialiste comme vous le savez, mais qui donnent parfois des informations pertinentes. Donc vous pouvez y aller gaiement, quoi, dites pas des milliers d'expulsions, ça fait petit bras, ça fait franchouillard, non, dites-le, 2 millions. Voilà. Allez, amusez-vous bien à Cleveland et ramenez-nous un beau reportage. Je sens qu'on va rire jaune, bien entendu, mais qu'on va bien se poiler, parce que y a que ça à faire avec la bande de branquignoles qu'on se traîne. Allez, au revoir.
Oui, merci pour ces messages, chers AMG. Les chiffres que je donne sur les saisies immobilières et les expulsions aux États-Unis, il faut pas confondre celles que je donne, que j'ai indiquées au total, et celles qui concernent Cleveland en Ohio. Évidemment, c'est pas la même quantité, mais effectivement, c'est par millions aux États-Unis. À la fin de l'année prochaine, 2009, on estime qu'il y aura eu en tout, 10 millions de ces saisies immobilières qu'on appelle les subprimes. c'est 10 millions de personnes qui auront, dont les logements, les maisons auront été saisies, et c'est pour tout cela la fin du rêve américain. Le rêve américain, c'est la petite maison que vous voyez dans les séries américaines, les fameuses séries américaines, la petite maison, jolie comme tout, avec la petite pelouse devant, la belle auto bien astiquée, et puis les petites fleurs, et puis là, en ce moment, c'est Halloween, alors il y a un décor avec des citrouilles et des personnages fabuleux, etc., vous connaissez tout ça. Eh ben, c'est ce rêve-là qui est inaccessible, auquel n'accéderont pas ces millions d'Américains. C'est de là que la crise que nous connaissons aujourd'hui est partie, à partir de ce renversement de la valeur des valeurs immobilières. Là, on vient d'arriver à New York hier soir, et on va aller, alors là, cette fois-ci, du côté de Wall Street, du côté de ceux qui maintiennent la barre coûte ce que coûte, et profitent des soutiens énormes du Trésor américain, puisque en fait le soutien va à la finance, va aux entreprises et non pas aux particuliers. Et c'est ça qui explique la colère, la rage, et peut-être qui explique le probable, possible, j'hésite, succès de Barack Obama. Aujourd'hui, on continue notre série de retours en arrière dans les émissions, dans les archives de la BACI. J'y suis sur l'argent, sur la finance, sur la musique, un petit peu sur l'air de vous l'avez bien dit. Là, on retourne dans les années 80, au moment où on nous a dit vive l'argent, il faut réconcilier les Français et l'entreprise, les Français et l'argent, le profit, c'est bien, etc. C'était les années 80, il y a eu une sorte de révolution culturelle qui s'est faite, et aujourd'hui, on mesure les résultats, les rages, les déceptions, les inquiétudes palpables en arrivant ici à New York avec tous ces chantiers qui sont immobilisés. Ça, c'est un des traits qui nous a frappés en arrivant, c'est des chantiers, et on nous dit que beaucoup de constructions sont à l'arrêt. Dans Manhattan. Voilà. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Pour arrêter la panique boursière et la dégringolade généralisée et irrationnelle, c'est pourtant très simple. On ferme les bourses, on arrête les transactions, on arrête les cotations. C'est tout simple, en fait. Chacun garde ses actions, se les met dans la poche, on lui les confisque pas, et les entreprises peuvent reprendre le travail pour lequel elles sont faites, c'est-à-dire produire, et procurer par cette production des revenus à ses salariés. C'est extrêmement simple.
Salut à tous. Il y a quelques mois, dans un article d'une page entière, le quotidien local signalait que 75% des pompes funèbres nationales sont aux mains des fonds de pension américains. Ainsi, à défaut du paradis tout court éventuellement, nous pouvons être assurés de laisser un petit rien de nous aux paradis fiscaux.
Putain, font chier les deux blaireaux avec leur mammouth de merde.
Salut, c'est Daniel Mermet, la BACI, j'y suis avec Renaud Lambert. Années 80, retour en arrière.
Flight number 2, arriving from...
La politique engagée depuis le mois de mai 1981 est-elle bonne pour la France? En dépit des difficultés, nous avons progressé sur ce chemin ardu. Réalisé en peu de mois plus de réformes, plus d'avancées sociales que la France n'en avait connues durant un demi-siècle. Mais maintenant, nous avons plus que jamais à vaincre sur trois fronts. Le chômage, l'inflation, le commerce extérieur. La limitation de la croissance...
Ça avait pourtant bien commencé et puis l'on déchanta. Le tournant de la rigueur était inexorable. La seule politique possible était inéluctable. Vous vous souvenez ? Si vous ne vous souvenez pas des années 80, les années 80 se rappellent à vous chaque jour encore. Les mêmes acteurs, encore le même décor, ou presque. Presque, car depuis, il y a eu quelques contre-feux. On en est un peu revenu, mais dans quelle mesure est-il utile aujourd'hui de revenir sur ces années ? Quels grains à moudre peuvent-elles fournir ? Vous le saurez d'ici à 16h, grâce aux trois éclaireurs du peuple que nous avons réunis pour vous. François Cusset, auteur de La décennie, le cauchemar des années 80. Serge Halimi, auteur de Quand la gauche essayait, et Le grand bond en arrière, et Frédéric Lordon, Quand la vérité éclaire le monde. Jack Lang, ce sera une autre fois. Commencer par ce qui s'est passé avant et qui est peut-être le moment déclenchant de cette période cauchemardesque selon François Cusset, l'élection de Margaret Thatcher le 4 mai 1979.
Le 10 Downing Street va de nouveau changer de locataire. Le dernier mandat de James Callaghan, c'est dans la place à un premier ministre doublé d'une maîtresse de maison.
La reine m'a demandé de former un nouveau gouvernement. J'ai accepté. Très émue, Margaret Thatcher annonce sa nomination.
Charles Pasqua disait, il manque une Thatcher à la France, une Margaret Thatcher à la France. En quoi est-ce que ça augure et inaugure la décennie
Alors. Moi, je crois que ce qui est important dans l'élection de Margaret Thatcher, ce n'est pas que les conservateurs l'emportent au Royaume-Uni, parce qu'après tout, le balancement entre travaillistes et conservateurs avait caractérisé la vie britannique pendant des décennies. C'est que cette fois, c'est la victoire d'une droite qui veut mettre en œuvre une politique de droite. Margaret Thatcher avait été ministre précédemment et s'était accommodée d'une politique, disons, de centre-droit, d'une politique assez traditionnaliste au plan économique. Et quand elle arrive au pouvoir, en 1979, sa détermination est tout autre. Sa détermination est bien celle de rompre avec l'ordre social-démocrate ou keynésien qui avait caractérisé le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, dans ses mémoires, elle le dit, je cite, « J'avais toujours été un conservateur d'instinct, mais je n'avais pas su transformer cette sensibilité en une grille d'idées cohérentes et en un ensemble de mesures concrètes de gouvernement. » Plus vite, les illusions des hommes pratiques se désintégreraient dans le heurt de la réalité, plus la nécessité de développer une telle grille se ferait sentir. En d'autres termes, les soubresauts sociaux que le Royaume-Uni connaît à la fin des années 70 convainquent une partie de la droite, et en particulier Margaret Thatcher au sein du Parti conservateur, qu'il faut rompre avec des politiques centristes auxquelles il s'était accommodé pendant les années précédentes. Donc elle arrive au pouvoir avec une détermination de rupture, un peu comme Ronald Reagan un an plus tard aux États-Unis, et un peu comme, mais dans un autre sens complet, François Mitterrand en 1981. La volonté de rompre avec des politiques de type centriste.
Bernard Tapie, on dit toujours, c'est un cliché, dire qu'est-ce qui fait courir Bernard Tapie ?
Alors là, on a peut-être une explication sur le succès de ces années-là auprès du public.
Qu'est-ce qui fait courir Bernard Tapie ? Vous y avez répondu sous forme d'un spot de publicité qu'on a vu plusieurs fois.
C'est marrant, non ?
Très, très bien fait, avec des piles derrière. Mais on a quand même d'autres réponses dans votre livre. Ce qui fait courir Tapie, c'est d'abord que vous ne dormez que 4 heures par nuit. Et puis, autre confidence, c'est que vous avez des glandes surrénales qui sont le double de celles de moi. Ah, oui ou non ?
Ça, c'est une rigolade.
Ah ben, comment ?
C'est qu'en fait, vous savez que vous marchez avec un certain nombre de corticoïdes qui sont capables de vous donner de l'énergie. Et le fait de dormir très peu et de me passionner pour plein de choses a entraîné un certain nombre de démarches médicales qui m'ont appris que j'avais des glandes surrénales très importantes. J'aurais préféré que ça en soit d'autres, mais c'est les surrénales.
Voilà, une facétie de Bernard Tapie.
Ok, l'Aldanard. À droite, à gauche, au milieu. Non, pas là. Là non plus. T'as perdu. C'est la combine à nanar, être partout et être nulle part. Politique, business et foot, nanar est tellement partout. Tu peux se planter nulle part, jamais tricard, non jamais tocard.
Frédéric ?
Et moi, je voudrais faire le lien entre les problématiques surrénaliennes de Tapie et ce que disait Serge à l'instant sur l'espèce de mutation intérieure qu'a subi Thatcher en arrivant au pouvoir, qui passe d'un conservatisme d'instinct à un conservatisme articulé. Parce qu'il me semble qu'on a une transition assez similaire dans le cas du mouvement néolibéral français, où qui commence par une phase glandulaire biologique, hein, à base de d'élan vital, de libération des énergies, etc., qui était particulièrement bien illustré par l'émission Vive la crise, à une phase qui sera plus idéologique articulée. Alors un peu tardive, hein, parce que d'abord l'élan vital peine à se trouver les idées bien mises en forme, etc. Il les a pas encore sous la main, surtout que ce sont les socialistes. Hein, leur référentiel intellectuel, c'est quand même pas ça immédiatement. Donc il va leur falloir un petit peu de temps pour découvrir tout ça. Et c'est le genre de transition qu'on va voir typiquement à l'œuvre, par exemple, dans le cas du tournant de politique économique, où au tout début, en 1983, ça a surtout les apparences d'une réaction action à chaud, totalement désordonnée. On part les urgences comme elles viennent, on part au plus pressé, on évite la catastrophe. Puis, les socialistes vont avoir 2 ans pour se reposer du pouvoir, entre 86 et 88. Et alors, c'est à ce moment-là que la gauche va s'armer, la gauche de gouvernement, la gauche sociale libérale, va s'armer idéologiquement et qu'on va voir les corpus doctrinaires se dessiner et se durcir.
François Cusset, Thatcher, le début du...
Rétrospectivement, ce qui se passe en 79 en Grande-Bretagne annonce ce qui va se passer en 83 en France, au sens où, en fonction des cultures politiques et sociales de ces deux pays, il y a en gros 2 façons de faire passer la même chose. Thatcher est résolu et va le faire à faire passer en force, effectivement, les politiques ultralibérales, anti-keynésiennes qui sont les siennes. On pourrait dire rétrospectivement que la stratégie des socialistes et de Mitterrand a été de la faire passer pédagogiquement, si je peux employer ce terme ironiquement, c'est-à-dire on essaye autre chose pendant un an et demi, quand vous aurez bien compris que ça marche pas, on changera de cap. Donc pédagogie mitterrandienne contre force thatcherienne.
Sauf que la gauche française était très critique envers Thatcher, quand elle a été ensuite l'année suivante avec Reagan. Mais elle n'a pas été avec Mitterrand, enfin la gauche mitterrandienne en tout cas.
Bah, elle pouvait l'être effectivement au moment où cela a été élu, puisqu'on était en plein état de grâce, et même d'ailleurs en l'occurrence Mitterrand était encore loin d'être élu, donc les polarités idéologiques étaient encore très fortes, hein, les ennemis étaient là, de l'autre côté de la Manche et de l'Atlantique. On sera beaucoup plus discret sur ces sujets à partir de 83-84.
Si vous êtes séduisant et en bonne santé, impulsif mais pas trop, plus pragmatique que cérébral, plus intuitif que cartésien, si, comme Bernard Tapie, vous pilotez vous-même votre propre avion, si vous êtes encore plus casse-cou que timoré, plus cynique qu'idéaliste, bref, Si vous avez un tempérament d'aventurier et si vous êtes capable de tout risquer pour tout gagner, alors vous êtes peut-être déjà, ou vous serez peut-être un jour, un vrai faiseur de thrillers. Pourquoi vous ?
Parce que je pars d'une situation neuve, et par conséquent, ce qu'est crise pour certains est une situation connue de moi. Moi, c'est ça, c'est cette formidable envie de... Sûrement, c'est à la fois l'ambition et l'envie de réussir, mais je crois que le véritable moteur, c'est une extraordinaire injustice que j'ai ressentie pratiquement tout au long de ma jeune carrière, où j'avais le sentiment que le véritable dirigeant n'était pas forcément celui qui avait les plus de facultés pour l'être. Celui qui se mettrait à pas aimer l'argent à être chef d'entreprise, faut qu'il change de truc, parce que il est là pour ça, c'est son unité de mesure. Quand on, c'est comme si Dru disait, moi le chronomètre, je n'en ai rien à foutre. Ça n'a pas de sens. Donc il peut pas être désintéressé. Mais c'est pas vrai de toute la population. Moi je connais un tas de gens qui sont très respectables, et pour qui gagner deux fois plus, c'est pas du tout le truc absolu. Cela dit, moi, qui ai connu les deux situations, j'ai connu celle avec et j'ai connu celle sans. Je peux vous dire que je suis mieux dans celle avec.
Voilà, un document qui date de décembre 83. Tout le monde a reconnu Bernard Tapie. Et vous n'avez peut-être pas bien entendu le titre de cette émission. C'était « Les faiseurs de fric ». Et c'était réalisé par Roland Portiche et produit par Dominique Frichère, sur laquelle... On reviendra à vos commentaires.
Là, ce genre d'émission, effectivement, florès à cette époque-là. Il y en a beaucoup. Il y aura vu la crise. Il y en aura pas mal. L'idée, c'est quand même assez artificiellement de produire à la télé, à la radio, un discours de propagande pour réconcilier les Français et l'argent et l'entreprise, pour les décomplexer. Mais au milieu de cet artifice-là, le bonhomme Tapie est effectivement une aubaine, parce que alors lui, il incarne l'authenticité de ce désir-là. Il est même, il y a quelque chose de quasiment sexuel, libidinal. Il aime l'argent. Il explique que c'est cet amour de l'argent qui peut faire réussir. Donc tout l'enjeu politique et idéologique est là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tenir un discours sur le libéralisme, mais de sexualiser, moi je trouve, ces questions-là, de montrer que le capitalisme fait jouir, que l'argent est désirable. Donc, et finalement, le discours de la réalisation, consistant à devenir quelqu'un, à se trouver une voie, est rendu sexy par cette rhétorique complètement nouvelle en France, qui est que l'argent, qui suscitait que puritanisme et mépris chez les bons Français, est désormais la chose la plus révolutionnaire. Qui soit, quoi. Je note aussi une chose dans l'extrait qu'on vient d'entendre qui est très étonnante. Le topo du début, c'est en gros, pour réussir, le corps, c'est quand même plus important que la raison ou l'esprit. Et finalement, le discours de l'époque, c'est aussi le sport et sans doute une préparation bien meilleure à l'esprit d'entreprise que les études. Faites du sport, vous réussirez. Discours ultra démagogique et délirant. Et face à la montée du chômage, effectivement, et à la querelle scolaire et au problème de l'école à ce moment-là, c'est à replacer dans ce contexte-là, c'est assez étonnant, quoi.
Bernard Tapie, un nom bien célèbre, un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux, qui dirige des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme incroyables.
Alors,
même.
Comment faites-vous?
D'abord, je suis sportif. Je suis sportif depuis que je suis grand comme ça.
Ouais.
Ça m'a peut-être d'ailleurs donné un état d'esprit qui diffère un peu de certains de mes confrères.
Mm-hmm.
L'état d'âme, le mental, l'intelligence, tout ça, on ne peut pas l'extraire de son corps. En fait, il est le reflet de l'état de santé de son corps. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on est triste quand on est malade. Mm-hmm. C'est vrai qu'on est, comme vous, gay quand on est en forme. Et donc, je crois qu'il est indispensable d'être physiquement bien en forme si on veut être mentalement bien disposé.
Allez, il est champion!
Serge Alimi.
Au nombre de ceux qui rient aux plaisanteries de Bernard Tapie, je pense que les auditeurs ont distingué le rire de Jean-Louis Borloo, qui était sur le plateau et qui participait aux émissions de Tapie. Et il faut aussi souligner que pour la gauche, qui fera de Bernard Tapie un ministre de la ville quelques années plus tard, l'image de cet entrepreneur d'extraction populaire était tout à fait idéal. Ça lui permettait de rompre un peu avec son identification, avec ce qu'on a appelé la gauche caviar. C'était le type qui était capable en quelque sorte d'en remontrer à un autre tribun type Jean-Marie Le Pen.
Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur.
Mais c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que
non,
vous
mais
arrivez...
Soyez poli, mais monsieur, je peux pas être vous poli êtes sorti des bas-fonds, le seul
oui,
soyez poli,
oui.
Vous avez dû apprendre à parler
la seule
depuis
différence,
que
la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai, parce que vous dites n'importe quoi.
Ah, il s'avérera, cela dit, il faut ajouter que Tapie s'avérera évidemment incontrôlable, puisqu'il a été entièrement déniché. Alors on raconte, c'est Jacques Pillon, je crois, à l'origine, qui l'a déniché pour l'Élysée, pour effectivement, dans le rôle de l'animateur médiatique de l'entreprise. Et il va évidemment aller bien au-delà de ce qu'on lui demandait, devenir le personnage gênant, celui que la bonne bourgeoisie énarco-HECienne trouve vraiment vulgaire et obscène, et dont la popularité voilà, ira croissant et empêchera qu'on puisse vraiment le mettre de côté.
Celui que j'ai présenté maintenant, c'est un leader.
Oui.
Lui aussi, il avait un idéal et depuis quelques années, sa popularité, son talent, sa notoriété a largement dépassé le cadre du monde des industriels et des chefs d'entreprise. C'est devenu une star, il n'y a pas d'autre mot. Et il chante Bernard Tapie.
Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan, sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. C'est d'être un président, ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse, comme on jouait au billes, et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. Réussir sa vie, c'est prendre la main d'un enfant, le cœur d'une femme qui te sourit à l'aventure infiniment.
Alors la même année, la même productrice, Dominique Frischer, le 2 juin 1983, est présente dans une émission sur Antenne 2 qui s'intitule « L'argent, le péché des Français ». Là, c'est très clair. Le titre de la collection de la série d'émissions, c'est « Aujourd'hui la vie ». Donc, « Aujourd'hui la vie, l'argent, virgule, le péché des Français ». Et là, sur le plateau, on rencontre Dominique Frischer qui est sociopsychologue.
Bonjour à tous. Je ne sais pas combien vous gagnez, mais si je vous le demandais, il y a peu de chances que vous ne me le disiez. Nous avons avec nous sur ce plateau aujourd'hui Dominique Frischer qui vient de publier chez Belfond les faiseurs d'argent. Vous, quel alors jugement vous portez sur ce comportement un petit peu particulier des Français?
Mais je crois que c'est quelque chose d'historique. Il y a le plan psychanalytique, il y a aussi un plan socio-historique. Je veux dire qu'en France, il y a eu un moment où l'argent était donné. C'était l'argent des nobles et on ne parlait pas d'argent. Et quand il y a eu la révolution et le renversement des systèmes et des classes au pouvoir, les bourgeois qui ont commencé à faire de l'argent ont été traités de parvenus. Et finalement, on est resté au XXe siècle finissant avec le même code de définition sociale. Et moi, dans ce livre, j'ai voulu casser quelque chose qui était justement ce rapport à la culpabilité à l'égard de l'argent. C'est-à-dire que je suis partie du principe que les gens qui faisaient de l'argent avaient nécessairement un talent. Que ce talent, il était la résultante d'un certain nombre de qualités, qu'il fallait mettre ces qualités en évidence, et que c'était donc prendre le mot parvenu dans un tout autre sens et dans un tout autre contexte, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont partis de rien, qui ont eu une idée, qui ont fait des efforts et qui sont parvenus à réussir et à couvrir leurs objectifs. Il faut prendre des risques, et ça, c'est fondamental.
Voilà, alors investissez-vous, accrochez-vous, bagarrez-vous, et puis, si possible, gagnez de l'argent. En tout cas, bon après-midi à tous, et à bientôt pour une autre émission d'Aujourd'hui la vie. Au revoir.
Survivez.
Une interprétation du mot parvenu. François Cusset, est-ce qu'il n'y a pas là l'idée de rattraper notre fameux retard avec les États-Unis?
Oui, mais c'est même pas de rattraper un retard. Là, je pense que les termes employés par cette psychosociologue et par l'intervieweur prouvent que le discours sur l'argent des années 80 est peut-être le décalque exact du discours sur la sexualité des années 70. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, on est coincé, on est inhibé, on n'est pas totalement réalisé. C'était le cas dans la sexualité à l'ancienne, à la papa, qu'il fallait absolument libérer, avec toute cette mythologie de la libération. Et là, c'est pareil avec l'argent, puisque finalement, c'est le discours du péché, de la lourdeur, de la vieillerie et de la transgression nécessaire. Il faut donc transgresser ce tabou-là. Moi, je trouve que ce discours-là, là aussi, sexualise la question, sexualise l'argent et appelle à s'en libérer. Difficile de répondre autre chose à cette psychosociologue que oui, aimons l'argent, sinon on est vraiment décoincé.
Et ça baigne dans la psycho, quand même. Les années 80, c'est les années psy.
Alors, il se trouve en plus que le fait d'interviewer
une psychosociologue...
On invoque tout le temps
la psychologie, ouais, la psy...
C'est moi ce que j'appelle l'année des psy... Effectivement, la décennie des psychocrates, où ils sont toujours là aujourd'hui. Le paradigme psychologique ou psychologisant explique désormais tout. Nos rapports à l'argent, nos rapports à l'entreprise, les enjeux politiques, les enjeux géostratégiques, l'histoire du monde... Tout est psychologisant, c'est quand même les années de Psycho, l'émission pionnière de Pascal Brugnot. Alors effectivement, le psychologue est l'expert le plus écouté, surtout le psychosociologue ou le psychologue d'entreprise, puisqu'en lui, celui-là connaît l'âme de l'entreprise, c'est quand même important.
Il faut bien reconnaître qu'en l'espace d'un peu plus de 3 ans, l'Amérique s'est découvert un président. Un Ronald Reagan... qui patiemment a balayé toutes les critiques de ses adversaires.
Tonight, we can report and be proud of one of the best recoveries in decades.
Ce soir, on peut faire état et être fier de l'une des plus brillantes reprises depuis des années. En moins de 3 ans, une inflation ramenée à moins de 4%. Elle était en 80 à plus de 12%.
And our record is clear. Americans resort to force only
et notre bilan est clair, les Américains n'ont eu recours à la force que lorsque c'était nécessaire. Jamais nous n'avons agressé, toujours nous avons lutté pour défendre la paix et la démocratie. Une Amérique forte, jamais le budget de la défense n'a atteint de tels sommets pour obtenir, selon Ronald Reagan, que l'on discute d'égal à égal avec les Soviétiques.
America is back, standing tall.
L'Amérique est de retour, fière, regardant les années 80 avec courage, confiance et espoir.
Is back, standing tall.
L'Amérique est de retour, fière, regardant les années 80 avec courage, confiance et espoir.
Voilà, America is back, c'est le 29 janvier 1984 sur Antenne 2. Reagan est candidat.
Oui, alors, il est candidat, il sera réélu très largement avec 59% des voix en novembre de 1984. Naturellement, dans le bilan qu'il a dressé de son premier mandat, il y a un certain nombre d'éléments manquants, notamment le fait que le déficit commercial a été multiplié par 3 ou par 4, un peu comme le déficit budgétaire, et que le nombre de pauvres a explosé. Mais il y a une chose qui est peut-être plus intéressante pour nous ici, c'est que 1984, ça a été aussi et presque autant l'année du Reaganisme en France. Le 28 novembre 1984, donc 3 semaines après sa réélection, j'ai retrouvé un article paru dans le Wall Street Journal qui était titré « La France vire à droite, vive Reagan ». Le Wall Street Journal est donc le journal des milieux d'affaires et un journal très marqué à droite, côté républicain, côté Reagan. Et la correspondante du journal écrit « sur les Champs-Élysées, sur les grands boulevards, sur la rive gauche, aux Halles et à Beaubourg, dans les cafés de quartier, dans les restaurants élégants, dans le métro, dans une boulangerie des profondeurs plébéiennes du 13e arrondissement, cela ne s'arrêtait pas. Le plus souvent, surtout si c'était à l'intérieur d'un établissement, le Français libérait sa conscience en me détaillant la chance que nous avions, nous les Américains, d'avoir Reagan pour président, et la chance pour le monde d'avoir le président Reagan, alors que, hélas, allait devoir subir 3 ans de plus François Mitterrand. Je commençais à imaginer ce que les soldats américains avaient dû éprouver quand on les acclama à l'époque de la libération de la France. Fin de citation donc du Wall Street Journal. Et c'est assez dire que la popularité des États-Unis et de Reagan était très forte en France, y compris dans certains milieux intellectuels, qu'on se souvienne Guy Sorment, Bernard-Henri Lévy, Georges Suffert, qui parfois publièrent des ouvrages pour certains d'entre eux, comme ceux de Sorment à la gloire du modèle libéral, à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires.
Mmh. C'est d'autant plus vrai. Alors le lyrisme du Wall Street Journal effectivement nous rappelle que voilà, l'Amérique est enfin bien accueillie en France. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de basculer d'époque. La géopolitique vue depuis l'hexagone s'inverse à ce moment-là. La 84 est d'ailleurs à mon avis l'année la plus américanophile peut-être du siècle en France. Donc l'Amérique grand méchant capitaliste, grand Satan impérialiste en pleine époque qu'elle soit marxiste ou gaullienne d'ailleurs, devient cette fois-ci le modèle à suivre absolument, et dans tous les domaines. C'est-à-dire que on a effectivement des intellectuels qui applaudissent l'armement par la CIA des contrats fascistes au Nicaragua. On a évidemment les libéraux, les idéologues libéraux qui font de la Californie l'Eldorado absolu. Je crois que 84, si je me trompe pas, c'est la création du magazine économique Challenge en France, qui est un magazine d'un genre nouveau. C'est plus l'économie à la papa, c'est l'économie avec des vrais portraits de jeunes entrepreneurs en jean. Enfin, c'est le début là aussi de la Silicon Valley. 84, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles, énormes, surdimensionnés, d'une taille record, qui sont l'occasion là aussi de faire l'éloge de l'Amérique. Et finalement, Reagan est le portrait élogieux qu'en font mais tous les intellectuels, même de gauche en France. C'est le portrait d'un homme simple qui est enfin un homme politique méritant ses responsabilités, selon une logique qui est finalement la même qui justifie d'inviter Bernard Tapie sur des plateaux de télévision en France.
À travers tout votre bouquin, François Cusset, vous essayez de nous raconter, vous y arrivez d'ailleurs pas mal, à trouver toutes les idées, enfin à essayer de mettre en lumière tout ce qui fait notre aujourd'hui.
Alors, sur le cas précis de l'Amérique, je pense que ça a changé. Là, en 20 ans, ça a vraiment changé. Ce qui s'est passé depuis, c'est que l'ennemi idéologique, imaginaire, enfin, qu'on l'appelle communisme ou autre chose, à cause duquel on choisissait l'Amérique, a évidemment disparu, en tout cas, de la politique officielle mondiale. Donc ça change un peu la donne. Et puis en plus, l'Amérique est devenue un contre-modèle à d'autres niveaux quelques années plus tard, à partir des années 90, à cause de ce qu'on appelle le communautarisme, le politiquement correct, le multiculturalisme. Donc l'Amérique comme une sorte de modèle, de contre-modèle social face à la République française unie. Donc la France a 10 ans plus tard, va effectivement rentrer dans une période nettement moins américanophile, d'où d'ailleurs les débats actuels. C'est-à-dire, on voit bien entre intellectuels ou éditorialistes sur le thème, vous choisissez soit le Grand Sud, le tiers-monde dans sa diversité, soit l'Amérique comme une sorte de garant de l'Occident et de la civilisation, comme certains intellectuels notoires français le disent. Mais ça fait débat. Voilà, il n'y a plus ce consensus américanophile délirant de 84. Quoi.
Ce qui a marqué ces années 80, c'est Bernard Tapie, on le répétera jamais assez, et notamment Bernard Tapie, producteur d'émissions de télévision, notamment d'une série qui s'appellera Ambition. En 1999, Tapie revient sur ces années et sur ses émissions, donc Ambition de 1986.
On parle un peu télévision, Bernard Tapie. Le mot ambition vous dit quelque chose?
Ah oui, oui.
C'était une émission.
C'était...
C'était formidable. C'était encore une commande, parce qu'à l'époque, on disait que la France n'aimait pas les entrepreneurs, ni n'aimait pas les entreprises. Ouais. Ça a beaucoup changé.
On est en quelle année, là?
En 86, 20 février.
Maintenant que la gauche est durablement au pouvoir, les Français aiment les chefs d'entreprise qui gagnent beaucoup d'argent. Et avant, ils aimaient pas. Bon. Et on a cherché à faire des émissions qui abordent le problème de l'économie d'une manière ludique.
Rappelez-vous.
Je crois que la vraie seule victoire, c'est la victoire que l'on obtient sur soi-même. C'est-à-dire celle qui vous donne envie d'aller au bout de vos compétences personnelles. Et ces compétences personnelles, il faut les mettre au profit de la collectivité. Car finalement, performant ou non, tout le monde a le droit au bonheur. Bonsoir.
Et alors, ça a apporté des fruits ?
Vous savez, je crois que essayer de suggérer des choses qui sont gratifiantes, qui sont génératrices de plaisir, d'envie, etc., c'est à la fois dangereux, parce que ça peut donner le sentiment que c'est facile à faire, que c'est à la portée de tout le monde, et donc on crée des déçus, parce que c'est pas facile à faire. Mais n'empêche que c'est par ces caricatures un peu excessives qu'on arrive aussi à susciter des envies et des vocations.
Voilà, Nanar, une fois de plus. Les commentaires.
Ah, Nanar. Vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires tout le temps, vous pouvez tout avoir un silence consterné à la radio, ça peut être tout à fait un commentaire.
Ben, je crois qu'on l'a entendu, là. Le silence est épais, quoi. Il crie même. Non, ça se passe presque de commentaires, mais faut rappeler, ce que c'est Ambition, quand même. Donc, le principe de l'émission Ambition, c'est que le candidat invité a, la soirée, enfin, je crois que ça dure 2 heures, pour créer une entreprise en direct à la télévision. Donc, il passe des coups de fil, il cherche de l'argent, des investisseurs, il se fait un peu embêté par Tapie qui lui pose les bonnes questions, mais est-ce que votre idée va tenir la route? Donc, c'est ça qui est intéressant finalement, c'est le côté un peu gladiateur, c'est-à-dire que c'est pas seulement le discours de l'entreprise, c'est l'idée que ça va se passer en direct, que soit on y laisse sa peau, parce que le pauvre type qui rate effectivement en direct, qui se plante, il est fini, il faut qu'il fasse autre chose, soit on sort vainqueur, effectivement, et donc c'est vraiment là aussi une logique.
On crée sa boîte en 2 heures.
En 2 heures, on amène son concept, on a 2 heures pour créer sa boîte avec recruter les conseillers, les employés, trouver les investisseurs. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt le devenir entièrement ludique et entièrement médiatique du discours de l'entreprise, plutôt que simplement ce discours de l'entreprise. Bon, plus les propos de Tapie, enfin bon là c'est presque de la poésie, quoi. C'est-à-dire aller au bout de ses ambitions, plaisir,
bonheur,
envie,
bonheur, très important, le bonheur. Le plaisir c'est bien, mais le bonheur c'est bien aussi.
Mais alors moi je recommande quand même une lecture saine. C'est de lire le best-seller de Tapie en 86, Gagné, parce que là, de façon beaucoup plus sérieuse, moi, je l'ai lu presque en entier, et là, j'ai été beaucoup plus effrayé que tout ce qu'on peut raconter maintenant.
Bernard Tapie, chef d'entreprise, président du groupe Tapie, et puis aussi animateur d'émissions sur TF1. Bref, votre livre paraît cette semaine chez Robert Laffont, sous le titre tout simple, Gagné.
Je crois que la vraie relation sociale, c'est lorsqu'un homme passe 8 heures par jour de son temps d'éveil dans une entreprise. On essaie de dégager dans l'entreprise une culture, une musique, une idéologie, un mythe, pourquoi pas, qui fasse que la personne en question est fière d'être et d'appartenir à la compagnie dans laquelle il travaille. Il n'y a pas de patron qui font une entreprise sans personnel. Mais le problème, c'est de se poser, en termes rationnels et sans polémique, est-ce qu'une entreprise peut vivre sans un type qui dirige? Voilà. La réponse est non.
Derrière le discours, effectivement, du plaisir, de l'envie, de la vocation et de la jeunesse, ce discours un peu démagogique de l'entreprise, il y a en fait une logique que j'hésiterais pas à qualifier de péténiste. C'est-à-dire qu'il y a un principe du chef, le chef que lui est, puisque c'est lui l'élu, c'est lui le héros, enfin en tout cas les quelques rares qui ont la force ou les couilles, comme dirait Tapie, de devenir chef d'entreprise. Et puis il y a le reste, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'un chef. Et gagner, c'est que ça, c'est l'idée que le monde est divisé entre ceux qui ont la vocation naturelle du chef et ceux qu'on rencontre et dont on voit bien que ça leur ferait bien plaisir d'être dominé par un chef charismatique. Je suis désolé, ce discours-là, il me semble plus politique qu'économique.
Ce qui serait bien, c'est que parmi ceux qui ont créé leur entreprise, soirées-là, au cours de ces soirées, on est des auditeurs, s'il y en a, qui nous appellent et qu'on voit un peu ce qu'ils sont devenus.
E.T. Maison Téléphone. E.T. Téléphone Maison.
Mon Dieu, ça y est, il parle.
Maison.
Mesdames et messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Nous allons rester un peu plus d'1 heure ensemble ce soir, 1 heure pendant laquelle nous allons parler d'argent.
de l'argent qui vous manque, de celui que vous placez aussi et qui, grâce à la bourse, deviendra l'argent des entreprises avant de vous revenir ensuite. C'est important, l'argent. Et c'est pourquoi l'économie de la France, sa richesse et son avenir, eh bien, c'est vous.
Parlons d'argent, de votre argent.
Vous connaissez Pierre-Marie Thiaville, dont vous appréciez les conseils pratiques. Eh bien, désormais, il viendra chaque mois vous aider à mieux défendre votre argent contre ses ennemis.
Voilà, c'est pas les Monty Python, c'est une vraie émission qui a vraiment existé. C'était le 26 septembre 1985 et ça s'appelait Action. C'est important, l'argent, nous dit François-Henri de Virieux, et défendre votre argent contre ses ennemis. Frédéric Lordon, c'est lui ?
Bien sûr, c'est ravi, convaincu à bloc. Ce qui est très intéressant, c'est que le néolibéralisme a bien compris que son combat se gagnait dans les structures économiques, qu'on réforme plus ou moins brutalement, mais surtout qu'il se gagnait aussi par des luttes symboliques. C'est-à-dire le néolibéralisme l'aura totalement emporté quand il aura triomphé dans les esprits. Et c'est la raison pour laquelle il est véhiculé par toute une série d'entreprises pédagogiques comme celle dont on vient d'écouter l'archive. Et ça passe par une multiplicité de canaux qui est tout à fait impressionnante. Les écoles de commerce, évidemment, ça c'est la plus simple. C'est-à-dire former les jeunes esprits malléable. Moi, je me souviens que j'étais à cette époque dans une école d'ingénieurs et déjà, la pédagogie commençait à s'infléchir considérablement pour... puisqu'il s'agissait, bien sûr, de former les cadres dirigeants de demain. Il s'agissait d'infléchir la pédagogie pour une prise en compte toujours plus importante de la gestion, les contraintes de l'économie, etc. Et à cette époque même, à l'école des ponts où je suivais paisiblement ma scolarité, venait de se créer un cycle particulier qui était l'équivalent d'un MBA, c'est-à-dire d'un Master in Business Administration, c'est-à-dire une espèce de business school, de petite business school à l'intérieur de l'école d'ingénieurs. Deuxième filière pédagogique, il y a eu tout le mouvement qu'on a appelé des clubs d'investissement dans les années 80, mais ça fait florès, c'est-à-dire des gens tout à fait ordinaires qui se regroupent pour discuter le coût boursier, bien sûr, entre eux, et chacun de gérer à la petite semaine son petit portefeuille, et c'est à qui fera le mieux. Donc là aussi, c'est par des voies comme ça tout à fait capillaires hein, que s'insinue très profondément dans le tissu social cette culture de l'argent, évidemment détabouisée, comme disent avant Nicolas Sarkozy tous ces gens-là, puisqu'il faut en finir avec les tabous. Donc c'est vraiment la pédagogie néolibérale et boursière ont vraiment de très beaux jours devant eux, et on aurait tort de le prendre à la rigolade. C'est un ennemi, c'est un ennemi très très dangereux.
Trois écoles de commerce vont concourir pour le titre de meilleur investisseur en bourse. Alors, notre spécialiste financier, Jean Lebert, a conçu avec la compagnie des agents de change, qui est représentée ici par son syndic, monsieur Xavier Dupont, bonsoir monsieur Dupont, bonsoir, un véritable championnat de France des investisseurs. Monsieur Dupont.
Je crois que aider des jeunes filles et des jeunes gens à qui seront les décideurs de demain, à mieux connaître la bourse et ses mécanismes, je crois que c'est un très bon investissement.
Si vous avez choisi le film américain de Humphrey Bogart, le costume trois pièces, les surgelés, le grand voyage au bout du monde et Michael Jackson, vous appartenez à la famille Action.
Et Action dans votre jargon, ça veut dire quoi ?
Un slogan peut-être. Réussir dans la vie en période de crise par les technologies modernes et la compétition économique.
Bien, alors, deuxième type de choix maintenant.
Si vous avez préféré le film de Godard, les vêtements punk, la cuisine exotique, la nature brute et Miles Davis, vous êtes plutôt dans la famille ailleurs.
Alors, ailleurs, par définition, situe moins bien.
Dans cette société qui ne nous propose pas de grands projets, s'évader le plus loin possible dans une passion personnelle.
Voilà, on est à mi-parcours, on est au 30 octobre 1985, c'est une émission qui s'appelle F comme français, sur la 2, une émission de Pascal Brugnon et Bernard Boutier, qui ont tenté la gageure de visualiser la diversité de la population française, en même temps que la technique du sondage, et pour cela, ils ont fait appel à un sociologue professionnel, Bernard Catlat, du Centre de communication avancée d'Avas, qui a dégagé à partir d'enquêtes 5 grandes familles de français et 5 styles de vie. Et donc, au cours de cette émission, en choisissant des styles de vie, comme on vient de l'entendre, eh bien, on pouvait, à la fin de l'émission, comme dans d'autres, on pouvait trouver créer une entreprise. Là, on pouvait savoir qui on était dans cette société française.
Troisième solution.
Vous avez choisi Terminator, le film fantastique, le look punk, le hamburger, les vacances sportives, Nina Hagen, le rock. Vous faites partie de la famille Plaisir.
Alors, Plaisir, c'est plutôt sympathique, on peut en savoir davantage.
C'est sympathique, certes. Le slogan pourrait être pour eux, s'éclater. Aujourd'hui, tout de suite, malgré la crise, par tous les moyens. Système D.
Si vous avez choisi La Chèvre, le film drôle bien français, les vêtements pratiques, la cuisine mijotée, le camping en famille et la chanson française, vous êtes alors dans la famille Confort.
Alors Confort, ça dit bien ce que ça veut dire, j'imagine.
Oui, priorité à s'installer douillettement, confortablement, entre soi et y rester.
Et si vous avez choisi les films romantiques, le costume, style BCBG, le gigot haricot vert, les vacances culturelles et la musique classique, vous appartenez à la famille Tradition.
On pourrait les qualifier de personnes qui cherchent leurs racines, le retour aux sources, les grands principes, les valeurs.
Ouais, c'est la grande mythologie des sociostyles dont Bernard Catlin est l'inventeur et le héros à cette époque-là. Il y a beaucoup d'autres sociologues, alors vraiment faut mettre des guillemets autour de ce mot quand on l'emploie dans ce sens-là. À cette époque-là, hein, il y a effectivement la COFREMCA, le CREDOC, tout un ensemble d'organismes, parfois d'ailleurs semi-publics, où des experts d'un genre nouveau cartographient de façon exhaustive la société française en fonction des habitudes de consommation, des styles de vie et des rapports à l'argent quand même principalement. C'est pour ça que on pourrait dire que ça a toujours existé, la volonté de cartographier, de créer des catégories à l'intérieur de laquelle on pourra faire rentrer toute la population. C'est un mode de contrôle social aussi ancien finalement que la démocratie bourgeoise. Mais là, c'est d'un genre nouveau parce que finalement, c'est plus du tout des logiques de classe. Ce qu'affirment ces sociostyles, c'est que les logiques de classe n'existent plus, que ce qui est déterminant désormais, c'est un certain rapport à l'argent, le goût de certaines couleurs, une certaine psychologie qui fait qu'on est soit des moutonniers, haute catégorie de catelas, soit des inventifs, des audacieux, des casse-cou. Vous voyez d'ailleurs, on est entre la psychologie et la BD au niveau des catégories choisies. Et l'effet de cette vogue-là reprise en cœur par tous les magazines de l'époque, c'est que même si ça a très peu de validité scientifique, on le sait très bien, ça va faire qu'au terme de la décennie, les marqueurs de classe auront en grande partie disparu des discours médiatiques ou intellectuels, puisqu'ils auront été remplacés par ces choses très volatiles que sont effectivement le goût pour certains yaourts ou le goût pour... Il y a aussi une raison beaucoup plus concrète à tout ça, qui est que c'est l'époque effectivement du boom d'un certain capitalisme français, et pour optimiser le marketing, c'est-à-dire tout simplement pour savoir quelle musique sera la plus efficace à faire passer dans le supermarché pour que les gens consomment, là, il faut faire des enquêtes permanentes, il faut faire des groupes de consommateurs, il faut les cartographier. Donc, l'objectif plus direct, c'est ça. Mais l'objectif, moi, il me semble, à terme, c'est quand même effacement des marqueurs de classe et catégorisation exhaustive de toute la population consommatrice française, quoi.
Vive la sociologie de marketing.
Ouais, enfin, en tout cas, le marketing a tué la sociologie.
Est-ce que ça a marché, cette volonté de décomplexer les Français face à l'argent?
Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut dire 20 ou 25 ans plus tard que cette propagande un peu hystérique, surtout venant après une période absolument inverse, hein, où en gros la droite conservatrice comme la gauche marxiste méprisait tout ça, hein, ils étaient d'accord. Donc ce retour de bâton à ce point-là est déconnecté de la réalité sociale, qui est d'abord une réalité d'échec, de chômage, de douleur, de dépression, finalement ne sélectionnera qu'une petite élite d'entrepreneurs heureux, ne représentant rien du tout. Je crois que ça n'a pas pris. Le discours de l'entreprise n'a pas pris. Il y a effectivement une augmentation de la natalité des entreprises au fil des années 80, qui a atteint, je crois, son pic au début des années 90, pour se stabiliser ensuite. Mais ça n'a finalement pas pris, ce que d'ailleurs les étrangers nous reprochent, trouvant que c'était bien la peine d'être si libéraux sous Mitterrand, pour que finalement on soit toujours rétif face au mythe de l'entreprise.
Tapis, ça durera quand même un certain temps, parce qu'il faut rappeler qu'aux élections européennes de 1994, il obtiendra 12% des voix, un score à peu près comparable à celui de la liste conduite par Michel Rocard pour le Parti Socialiste.
18 octobre 2007. Comme chaque année, ce jour-là est organisé la fête de l'entreprise. Son nom, J'aime ma boîte.
Et si tu aimes ton entreprise, il est grand temps que tu le dises. Si ton patron est ton ami, tu dois faire la fête avec lui. Alors laisse tomber ta cravate. Aujourd'hui, tu...
tout le monde.
C'était une nouvelle diffusion de l'émission Années 80, Retour en arrière. Merci à François Cusset, auteur de La décennie, le grand cauchemar des années 80 aux éditions La Découverte. À lire également de Serge Halimi, Le grand bond en arrière aux éditions Fayard. Et Quand la gauche essayait aux éditions Arléa. Ainsi que Jusqu'à quand de Frédéric Lordon aux éditions Raison d'agir. Mais toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Antoine Viossa. Réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde. Assistante Charlotte Perry, chef du répondeur Agnès Le Bot. Le numéro du répondeur de la Bassie J'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.